Et je pense que... Comment ?
Non, parce que si je suis à la mort en tant que cheval, ça veut donc dire qu'il y a un homme que l'on peut pratiquer avant le travail.
Ah oui. C'est là. Oui, mais ça veut dire qu'il se condamne à une semaine sans jour d'interruption. Et il est bien évident que pour ceux qui pratiquent Shabbat, il est bien évident que la vie du jour du Shabbat n'a rien à voir avec la vie du dimanche. Bon, j'entends bien que... Vous comprenez ce que je dis ? J'entends bien que dans certaines communautés religieuses, disons, musulmanes pour le vendredi ou chrétiennes pour le dimanche, qui consacrent ce jour à la piété et à la moralité, alors il n'y a pas ces dangers de la police de Chicago. Voilà. C'est bien évident. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre. Vous voyez qu'il y a une relation entre être l'homme du Shabbat et être l'homme de la Torah. Que l'alliance de la Torah, c'est l'alliance du Shabbat. Je voudrais arriver à m'entendre suffisamment clairement sur ce point. C'est-à-dire que ce travail de la construction du monde ne peut être confié qu'à l'homme de l'alliance du Shabbat. Voilà, grosso modo, si vous voulez, l'idée fondamentale. Il n'y a que Am Mekadesh Shevi'i, le peuple de ceux qui sanctifient le septième jour, à qui est donnée la possibilité de la Kedusha, à qui est donnée la possibilité de la construction du Beit HaMikdash. Vous voulez poser ?
Il me semble qu'il y a un danger quand même à affirmer cette chose-là, parce que vous impliquez que l'homme de la rue, le goy quelconque est incapable de moralité,
d'avoir une moralité. Pas du tout. C'est pourquoi j'ai ajouté, mais n'oubliez pas ce que j'ajoute, c'est pourquoi j'ai ajouté que, bien évidemment, dans les congrégations religieuses où le jour du dimanche ou de vendredi n'est pas le jour du loisir et que cela, bien entendu, nous nous retrouverons au même niveau. Reprenons la Mishnah du matin. Kol Israël et Shem Prefarva, Chassid de Montar, voilà, Mishnah Prefarva. C'est-à-dire, il y a quelque chose de cet ordre. Mais à partir du moment où la cessation de l'activité n'est pas corollaire de l'alliance de la loi morale, la cessation d'activité devient catastrophique. Il y a une Mishnah des Pirkei Avot, vous savez à quoi c'est rattaché à un verset après le déluge, Yom Valaila, Loishbot, Loishbot, Asou, les Ben Noach. Il y a une Mishnah des Pirkei Avot qui enseigne, vous allez m'aider à la retrouver. Il a fait Torah im de recheret, chez Yegiat, Shneem, Meshakrachat, Avon. C'est bien cette chose qu'il y ait la Torah et le métier, parce que la fatigue des deux empêche la faute. Ça y est, c'est peut-être. Yegiat, Shneem, Meshakrachat, Avon. Lorsqu'un homme est occupé à travailler, il ne faute pas. Et, mais dès qu'il s'arrête de travailler, alors il est donné à la faute. Il y a quand même une phrase, comme ça en français, l'ennui est la mère de tous les vices. Allez, pas trop d'être tous les vices.
Oisiveté.
On voit bien que dans l'économie, il y avait la source des transgressions.
Ah oui, mais le problème économique, c'est autre chose que le travail. Là, votre question est à sa place et ça mérite d'être précisé. Voilà, le problème économique, je veux parler, c'est le problème de la circulation des valeurs, de la circulation des jouissances, le problème des échanges. C'est ça le circuit économique. Le travail, lui, c'est autre chose. Je pense que c'est clair. Eh bien, c'est ça les métiers que cherchent les juifs. Écoutez, je vous dirai quel est le conseil que donne la Gemara de Kiddushi. La Gemara de Kiddushi dit ceci. Vous savez qu'elle donne un certain nombre de consignes aux parents, en particulier de leur apprendre à nager, d'apprendre à nager aux enfants, de leur apprendre à monter à cheval, aujourd'hui il faudrait dire en scooter, mais c'est dangereux, et de leur apprendre un métier. Entre autres, obligation des parents pour les enfants. Je dis parce que le père qui n'a pas appris un métier à son fils est responsable du fait qu'il deviendrait un brigand. Et alors la Gemara discute quel métier. dans une série de critères, un peu schématisés, il y a une pensée profonde. Elle dit une chose, bon, qui n'est peut-être pas visible dans l'expérience, mais qui devrait être évidente, c'est pas le métier qui enrichit. Parce que dans n'importe quel métier, il y a des riches et des pauvres. Je pense que c'est clair. Et donc, c'est pas le métier qui enrichit. Par conséquent, il faut choisir pour son enfant un métier propre et beau. Alors, il conseille l'orfèvrerie. Pourquoi ? C'est-à-dire pas celui qui fait le commerce des diamants. Ça, c'est autre chose. mais celui qui travaille dans les matières précieuses et qui ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire le travail de l'orfèvrerie. Parce que c'est un travail beau et propre, et puisque les matières précieuses ne lui appartiennent pas, et on gagne suffisamment pour pouvoir avoir suffisamment de temps pour étudier. La Gemara dit ça de façon très claire. Je me rappelle encore dans ma petite ville d'Algérie, la rue des orfèvres. Et il y a une rue entière, la rue des orfèvres, et c'était tous des Talmidei Chachamim. On l'appelait la rue des bijoutiers en français, mais c'était pas des bijoutiers, c'était des... Bon, alors, revenons un peu sur... Je sais pas, ceux qui ont vécu à Fès, peut-être, vous avez peut-être vu dans le Chouf de Fès, la rue des bijoutiers du ghetto, enfin, du Bélard. Non, personne n'est de Fès. Oui, vous connaissez cette rue? Bon, alors toi tu connais celle de Casablanca, ça ressemble. Bien. Donc je pense maintenant que le principe est suffisamment élucidé. Et puis, en fin de compte, l'Otera Arouesh Bechol Moshavotechem et Yom HaShabbat, vous n'allumerez pas de feu en aucune de vos demeures le jour du Shabbat. On se demande, là je vais rapidement, on se demande pourquoi le commandement de faire du feu, qui est un des 39 travaux, est rappelé ici. Et ici, ça a une portée bien précise. Premièrement, une fois le Beit HaMikdash construit, alors le Kohen avait le droit d'utiliser le feu pour le sacrifice dans le Beit HaMikdash. Mais pour la construction du Beit HaMikdash, c'est interdit, le Shabbat. Et vous pourriez croire que puisque dans le Beit HaMikdash, une fois construit, le Shabbat en avait le droit d'utiliser le feu, donc dans les autres demeures que Moshe Votechem, vos demeures à vous, et non pas la maison de rendez-vous, le Beit HaMikdash. Alors, Moshe Votechem, non. C'était nécessaire de l'indiquer. On pourrait croire que lorsque le Beit HaMikdash est là, c'est Shabbat dans toutes les maisons. C'est Shabbat Kedusha dans toutes les maisons. Non, le Beit HaMikdash est seul à être Yeshut HaYachid. Moshe Votechem, ça reste votre Yeshut HaYachid à vous, mais c'est le Yeshut HaRabim par rapport au Yeshut HaYachid. Mais en réalité, la Halakha a mis en évidence une autre règle beaucoup plus importante, consiste à dire qu'il y a interdiction au tribunal de se réunir le jour du Shabbat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas allumer le feu le jour du Shabbat. Avec quel feu ? C'est-à-dire donc interdiction d'avoir une controverse le jour du Shabbat. On pourrait dire ça va de soi. On pourrait dire ça va de soi. Ça va pas toi. Je vous donnerai un autre exemple. Dans les lois concernant la prière, dans le cinquième chapitre de la Masechet Brachot, on étudie que on n'a pas le droit de commencer à prier immédiatement en sortant d'une séance du Beit Din, lo mitor din velo mitor dvar halacha, ou de l'étude d'une controverse dans la halacha. Et on pourrait dire, mais que c'est une braïta très importante. En omdin leitpalel, lo mitor din. On pourrait dire, mais au contraire, on sort du Beit Din, où la Torah est appliquée, on sort de la Yeshiva, enfin du Beit HaMidrash, où on étudie la Halakha, au contraire, on est dans l'atmosphère de piété nécessaire pour prier. Au contraire, la Torah est interdite. Pourquoi ? Et vous voyez, c'est analogue à notre problème. Parce que la séance du Beit Din, où il y a deux tzadikim qui sont en controverse. Lorsque deux hommes demandent au Beit Din de dire lequel des deux a raison, c'est que les deux, elles sont de bonne foi. Ce sont deux tzadikim qui ont un problème entre eux. L'un dit la Torah est comme moi, l'autre dit la Torah est comme moi. Alors finalement, il y a opposition à propos d'une querelle quelconque. Hein. L'un dit la vérité de la loi est comme moi, l'autre dit la vérité de la loi est comme moi. Et alors, il faut trancher d'après la Torah, on va au Beit Din. Et précisément cette expérience, que bien que l'un et l'autre aient la Torah, il y a quand même Riv ben Anachim, il y a quand même querelle, cette expérience est contraire à la relation au Dieu unique. Donc, il faut avoir une transition. Il faut passer par Halakha Psuka. Il faut passer par l'étude d'une loi où il n'y a plus de controverse. Vous comprenez quel est le terme. Donc, en fait, ça n'allait pas de soi, si vous voulez, que le Beit Din ne doit pas se réunir au Shabbat. C'est incompatible d'étudier une controverse le jour du Shabbat. La Torah qu'on étudie le Shabbat doit être une Torah d'évidente unité. Les controverses, ça c'est pour la semaine. On va faire de réunion de bureau le jour du Shabbat. Bon, voilà donc le texte du Shabbat tel qu'il est rappelé au début de Bayakhel. Et il introduit la répétition des lois concernant la construction du Mishkan, la construction du Beit HaMikdash. La première loi de la construction du Beit HaMikdash, c'est que tous les matériaux apportés pour cette construction, et nous allons le lire simultanément, si vous voulez, au niveau des matériaux matériels pour la construction du monde, vraiment, la maison c'est une maison, comme la viande c'est de la viande, le lait c'est du lait. La viande c'est cachère, le lait c'est cachère, mais le mélange c'est pas cachère. Eh bien, et on parle là de la viande et du lait. Mais il y a d'autres niveaux, où la viande c'est autre chose, et où le lait c'est le lait. Et où chacun est cachère, mais le mélange n'est pas cachère. De la même manière, ici, les termes qui indiquent les matériaux renvoient aussi à des valeurs dont on doit faire l'unité de telle sorte que la Kedusha apparaisse. Il y a des valeurs d'or, des valeurs d'argent, des valeurs d'airain, il y a des valeurs de velours pourpre, il y a des valeurs de velours bleu. Je veux dire que les termes employés ici pour dire les matériaux du Beit HaMikdash ont aussi une lecture des midot, des valeurs dans le sens spirituel. Toutes les valeurs sont dans le monde et pas assez éparpillées, c'est le chaos des valeurs. Et la tâche de la construction du Beit HaMikdash, c'est de les unifier. Il faut donc que les valeurs soient disponibles. Alors la première loi, c'est que ces valeurs soient apportées en offrande. Alors suivez, verset 4. Bayomer Moshe el Koladat ben Israël. Et Moïse dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, les mots en disant, Zeradava, voici la chose, Asher Tziva Asher Memo, que Dieu avait ordonné dans les premières lois concernant la construction du Beit HaMikdash et que nous allons retrouver tout à l'heure. Kechou Meit Techem Teruma. Prenez de votre part, de vous-même, une Teruma, vous connaissez déjà le terme de Teruma, un prélèvement d'offrande, Hachem, Kone Divrivo. Tout celui qui est généreux de son cœur, tout celui qui est généreux de cœur, tout celui dont le cœur porte à la générosité, il dit, Yavia l'apportera, c'est-à-dire on ne prendra pas l'offrande de quelqu'un qui l'apporte parce qu'il en ressent l'obligation. Il faut que cela vienne de façon autonome. Et Moïse ici a une tâche très difficile, parce qu'il doit, ça nous le verrons dans l'autre verset de la paracha de Tzima, il doit transmettre un ordre qui n'est accompli que s'il est obéi, pas comme ordre. Je me suis mal exprimé, mais je pense que vous avez compris. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Débrouille-toi, mais qu'il m'apporte. De même. Fais que cela vienne de même. Vous voyez, la tâche de Moïse est très difficile. Au niveau du problème moral, si vous voulez, c'est le niveau de... le problème de l'antinomie qu'il y a entre l'hétéronomie et l'autonomie de la valeur morale. C'est-à-dire la valeur morale est authentique que si elle est hétéronome, par un certain côté. Ce n'est que si j'ai bien conscience d'obéir à la vraie loi que je suis l'homme de la moralité. Donc la valeur vient de l'extérieur de ma conscience. Elle me vient comme un devoir. Je pense que c'est clair, de façon hétéronome. Mais elle n'est authentiquement morale que si elle est autonome, que si c'est moi qui veux ce que la loi veut. Et donc, qui est Moïse dans ce problème-là pour toute la Torah? Il est celui qui doit faire que ce qui est ordonné doit être spontané. Regardez d'ailleurs tout de suite comment est le verset. C'est extrêmement éclairant. Vous l'avez au début de Teruma. Le verset 2 du chapitre 25. Daver el Bene Israël parle aux enfants d'Israël Veikrui Teruma. Et qu'ils me prennent une Teruma. Et qu'ils prennent pour moi une Teruma. Vous voyez, il n'y a pas écrit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, prenez une Teruma. » Ça, c'est ordre, obligation. C'est-à-dire, il faut ici prendre le terme d'obligation dans un autre sens. dans le sens profond de l'obligation morale. C'est-à-dire, je ressens l'obligation morale de le faire de par moi-même. Ouais, et tant que l'on n'est pas arrivé à cette transmutation, si vous voulez, du devoir en spontanéité, le bêta-midage ne peut pas être. Cette rouma-là qu'on apporte par devoir, eh bien, je ne sais pas si certains d'entre vous font partie de la fête unifiée, mais les militants, mais vous voyez quelle est la difficulté. Parce qu'une trouma obligée n'est en fait pas une trouma cachère. Bon, sauf, on est très tolérant et on accepte aussi la trouma. Il faut être méfiant. Alors donc, quand les divinités, il y a été romanage. Ça va, c'est le prochain trait, va comme un exemple. Nous reviendrons sur ce texte, mais retenez bien l'expression. Voyons, mais mon cher, quand la bénie Israël, les mots, Zéadavar, Hacher Siva, Hacher Mio, c'est cela, ce dont je vous avais parlé dans avant la fin du Vodou. Voilà ce que Dieu avait voulu dire. Hacher Siva, Hacher Mio, Kechumei Techem, Trouma. Prenez de votre part, de vous, la Trouma. Or, qu'est-ce qu'il y avait dans la paracha de Trouma, elle? Une toute autre formule. C'est le verset 2 du chapitre 25. Je le prends maintenant. D'aver ben Israël, veitrouli Trouma, meet kolish asher yidvenuli. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi la Trouma de tout homme que son cœur porte à porter. De tout homme que son cœur porte à donner, vous prendrez ma Trouma. Vous voyez tout de suite la différence tel que le Zohar la met en évidence, et pour renforcer ce fait que le Shabbat va être donné comme alliance spécifique à Israël à propos de la faute du Vaudor dans la paracha de Kikissa, le texte que nous avons vu hier soir, entre ces deux épisodes. Regardez bien, dans le premier texte, avant la faute du Vaudor, Israël est chargé de recueillir la Trouma de tous les hommes et d'en faire le Mishkan. C'est clair ? Jusque-là, bon, il y a eu le modèle. Je reviendrai sur la modèle. Il y a eu le modèle. Alors Moïse reprend le même commandement en disant modification. J'avais mal compris. Zéradava. Voilà vraiment ce que Dieu avait demandé. De vous, prenez la trouma. Pourquoi? Parce qu'entre temps, cette trouma qu'on avait reçue des autres, il n'en est pas sorti le bétamisage. Il en est sorti le modèle. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est bien. Comment? C'est le même sujet. Et je reprends le verset. D'abord, béni Israël, veikrouli Trouma, ça c'est dans la paracha de Trouma, chapitre 25. D'abord, béni Israël, veikrouli Trouma, mais et coli, chacheri de béni niveau, tikrou et terumatité. Il y a d'abord un projet universel. C'est que la Midrash se pose la question, d'où les Hébreux avaient les matériaux pour construire le Beth Amidrash dans le désert. Il y a deux ménages, deux réponses à mes ménages. Première réponse, c'était précisément tout ce rechouche, tout ce butin que les Égyptiens avaient donné aux Hébreux au moment de la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez de ce processus? Premier ménage, et c'est clair à comprendre. La dernière précaution de la sortie d'Égypte était en hâte d'ailleurs, mais il y a eu, dit le texte, un miracle. Vaïten et Hen Aram Be'enim Israël, que Dieu a. Comment traduire ça avec les Hébreux? Que Dieu a rendu les Hébreux gracieux aux yeux des Égyptiens, et les Égyptiens leur ont donné leurs bijoux. Vous vous rappelez de ça? Parce qu'il y avait une promesse à accomplir à Abraham, et que ta descendance sera étrangère et persécutée 400 ans, et ensuite je jugerai le peuple qui l'aura persécuté, et après cela, Yetzéou Birchouj Gadol. Ils sortiront avec un grand butin. Et alors, les Égyptiens ont été condamnés de Malbite. C'est-à-dire, les Égyptiens ont donné ce rechouche à Israël au moment où Israël est parti. D'ailleurs, il explique que, d'ailleurs, en fin de compte, on arrivera à un temps où c'est les Égyptiens qui paieront le Malbite. Mais le Midrash explique que pendant que tous les Hébreux étaient occupés à recevoir ce rechouche, pour accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, ensuite on se demandera ce que ça veut dire. Hein? Mais en tout cas, c'est un fait. Et pendant ce temps, lui, Moïse, avait une tâche particulière de chercher où était le cercueil de Joseph pour l'emporter d'Égypte, parce que sans le cercueil de Joseph, on ne pouvait pas sortir. On va bien parce qu'il y avait aussi une promesse que je devais arrêter. Je vais à cette. Donc, d'une certaine manière, il est évident que ce travail que Israël a accompli de construire le Beth Amidrash à tous les niveaux, eh bien, il ne peut le faire que si l'on reçoit les matériaux des autres nations. Parce que, vous vous rappelez comment nous avons commencé, Kol Adam le Amal Yulad. C'est-à-dire, toute l'humanité est engagée dans cette aventure de construire le monde du rendez-vous. Et donc, Israël, c'est les constructeurs, comment on disait Echel, en français, les bâtisseurs du temple. Israël sont les bâtisseurs du temple. Mais pour bâtir ce temple, il faut que les valeurs, les matériaux soient donnés par tous. C'est le premier plan, c'est le plan universel, celui de la paracha de Trouma. Entre-temps, il est arrivé une takala, comme nous disons en hébreu. Dans cette takala, un puncher, comment on dit ça ?
Une
panne. Un accident de parcours. Catastrophe. Ça veut dire de cet or qui a été reçu des goyim, il n'est pas sorti l'arche. Les montants de l'arche ou les charnières de la porte, il est sorti l'idole du Redon. Bon, c'est imagé ce que je disais, mais vous comprenez ce qui est véhiculé. Et alors donc dans la paracha de Vayakhel il y a changement de consigne, mais vous voyez comment la Torah s'explique. Zéra d'abord, alors c'était ça ce que Dieu avait voulu dire, et moi je vous l'ai transmis à l'échelle universelle, mais changement de programme, c'est à l'échelle spécifique. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, bien entendu, une réception, une glane, comme disait M. Gordin, une glane, glanée, hein, de la quête, une glane des valeurs des goïms, qu'Israël, en tant que Joseph, aide à susciter et fait pousser le blé. Mais ce blé doit être glané pour lier les germes, etc. Hein, Mais il faut qu'il y ait un relais de l'identité d'Israël lui-même. Donc c'est étroitement lié à Goy Shabbat, Chayam. Bon, je vois que je suis arrivé déjà presque à l'heure. Donc on ne peut pas aborder notre texte, mais vous avez quand même 10 minutes si vous avez des questions. Même un quart d'heure.
J'ai une petite question. Qu'est-ce que c'est le prix tzadik?
Voilà, le prix tzadik, c'est un très grand enseignement du Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Non, c'est édité à Lublin. Il est d'ailleurs de Lublin. Et qui a écrit beaucoup de livres, dont un commentaire de la Torah, des cinq livres de la Torah, et où il dégage les thèmes de ce qu'on pourrait appeler fondamentalement l'historiosophie. C'est un mot un peu barbare, mais enfin, c'est le mot que nous avons reçu. L'historiosophie, c'est-à-dire la sagesse de l'histoire. C'est-à-dire la compréhension du récit de l'histoire. Et vous remarquez que dans la plupart des thèmes que nous étudions ensemble, c'est donc le Peri Tzadik que je vous cite. Il n'est pas le seul à avoir donné cet enseignement. Il y a aussi le Shla, il y a aussi le Maharal, il y a surtout Yehuda Lévi. Mais le Peri Tzadik a, dans sa méthode particulière, de commenter d'après l'enseignement du Zohar.
Il se situe à quelle époque?
Comment?
Il se situe à quelle époque? Il est né en 1823, il est mort en 1900. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un islamique. Il avait donc une profonde, enfin, disons, culture traditionnelle talmudique, qui s'est convertie en sionisme, ce qui lui a permis d'amener la méthodologie yeshivote lituanienne dans son étude de la racine.
Et il est mort.
Paru à partir de 1908.
Et il est mort à l'époque où est né le Rav. Où est né le Rav? Oui, parce que j'ai étudié moi-même chez le Rav Kook un exemplaire du Peri Tzadik annoté de la main du Rav, je veux dire le père. Et le Peri Tzadik est une des très grandes autorités que cite le Rav Kook. Je veux dire, bien qu'il n'a pas été son élève physiquement, Il le considère comme son maître.
C'est une question.
Je ne parle pas du Rav Kook contemporain, ça va de soi, mais du père.
Je voulais vous poser une question, mais d'abord, je vous demande de confirmer si je ne me trompe pas. Lorsque Adam et Ève ont commis leur faute, c'était avant Shabbat. C'est exact.
Oui.
Alors, je voudrais savoir d'où on conclut cela, est-ce qu'il y a une indication vraiment à ce sujet, quelque chose dans le Tanakh. Et deuxièmement, pourquoi on insiste à tel point, parce qu'en somme, ça fait déjà un échec de Dieu pour le Shabbat, si avant d'entrer dans le Shabbat,
il n'y a pas de faute. Écoutez, c'est une question très ample. J'ai la tentation de vous demander qu'on étudie ça plus en détail demain. Enfin, je vais quand même essayer de vous répondre très rapidement. Par quel biais prendre la réponse. Je dirais ceci. L'essentiel de la faute est de l'ordre d'une faute. Le contenu de la faute nous reste mystérieux, provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire de manger un arbre, un fruit d'un arbre de la connaissance du bien et du mal, avec de telles conséquences catastrophiques? On ne se rend pas compte qu'on ne sait pas de quoi on parle. Je pense que c'est clair. Mais de ce point de vue, l'essentiel de la faute était dans une faute d'anticipation. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie très clairement le texte, on s'aperçoit que de tous les arbres du jardin, le premier homme devait manger. Il y avait un ordre. Mikol et Sagam, de tous les arbres du jardin, manger du mal. Il y avait un ordre. Et aussi, donc, de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'ordre, c'était de manger, enfin de se nourrir, de se constituer de l'arbre de vie d'abord, et après, d'accéder à la connaissance du bien et du mal. Or, la faute a été une anticipation, et donc une inversion de l'ordre, d'abord avoir pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que le verset intervient. Puisqu'il en est ainsi, je vais l'expulser du paradis, de peur du Gan Eden, qu'il ne prenne de l'arbre de vie et qu'il ne reste éternellement comme ça. D'accord ?
Une faute de pédagogie.
C'est-à-dire, comment il y a ?
C'est un peu une faute de pédagogie.
De la part de l'homme ? Oui. Non. Et bon, c'est encore plus compliqué de dire qu'une faute d'anticipation. C'est-à-dire, ces états-là, si on accède d'abord à l'arbre de vie, à la vraie sagesse, comment dire, à la sagesse de la tradition, dans le sens des traditions ésotériques, et après, à la connaissance du bien et du mal, alors tout est en ordre, si j'ose dire. Mais si c'est l'ordre inverse, alors c'est la catastrophe. Bon, j'étais assez... C'est-à-dire que là, il y a un programme que l'homme doit faire, et il est libre. Et par conséquent, le fait que l'homme puisse fauter, ce n'est pas un échec du Créateur, c'est dans les conditions mêmes de l'histoire de la création. J'irai un peu plus loin, j'irai même beaucoup plus loin. Lorsqu'on réfléchit à ce sujet, apparaît une catégorie extrêmement importante. Je citerai simplement un Midrash qui dit ceci, que lorsque Dieu a créé le monde, a dit « Alvay chez Yatsiyar ». Comment traduire ça « Alvay chez Yatsiyar » ? Il faut même que Dieu fasse qu'il le... C'est-à-dire, pourvu qu'il réussisse. « Utinam », comme on disait en latin. Par exemple, vous savez que lorsqu'on recommence à lire la Torah, à Simchat Torah, on commence par dire Bessimana Tava, Bereshit Vareloki. Ça veut dire Bessimanto. C'est vraiment un souhait que ça réussisse. Alors, le Midrash met ce souhait dans la bouche de Dieu lui-même. Je crée le monde pourvu qu'il réussisse. J'ai rendez-vous 6000 ans après, mais pourvu que ça marche bien. C'est-à-dire, imaginez, je vais essayer d'expliquer ça. L'image que j'ai reçue d'un de mes maîtres, c'est comment Dieu a créé le monde, comme une mère qui met loin d'elle son enfant pour qu'il apprenne à marcher. Et si l'enfant savait parler, il dirait, mais où tu m'as mis ? Marche. Mais où tu m'as mis ? Je vais tomber. Hein ? Oui, la chute. Et finalement, l'enfant apprend à marcher. Et avec deux possibilités. Ou il apprend à marcher pour revenir dire bonjour à sa mère, ou pour aller ailleurs. Ça, c'est l'histoire du monde. Il y a ces deux possibilités. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'il apprenne à marcher. Alors, il y a effectivement une angoisse réciproque. L'enfant, il dit, mais je vais tomber. Et ah oui, débrouille-toi, il faut que tu apprennes à marcher. Et puis en même temps, la mère, il dit, pourvu qu'il ne tombe pas. Vous voyez à peu près Oh, il va tomber. Mais personne ne peut intervenir. Ani, Memit, Vani, Mechaye, Ve Enmiyadi, Matsil. Il n'y a pas de sauveur. Et il faut se débrouiller à apprendre à marcher. Je pense que c'est plus. Et bon, on est rassuré, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Et puis, bon, ça c'est une image qui me vient maintenant. Et puis, qui c'est qui apprend à marcher ? Celui qui est l'homme de la halakha. Hein? Et l'homme de la halakha, il boite. Mais parce qu'il apprend à marcher. C'est Jacob. Mais parce qu'il apprend à marcher. Bon, en fait, je referme la parenthèse. La catégorie qui apparaît là, c'est que tout se passe comme si Dieu a mis contre lui toutes les chances de l'économie, en s'interdisant d'intervenir. Et il faut qu'il en soit ainsi pour que l'histoire du monde soit juste, sinon c'est un jeu. C'est un jeu absurde. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire ? Il ne faut pas que les trucs poussent. Nous jouons une partie dont nous sommes censés ne pas connaître les règles du jeu. Seuls connaissent les règles du jeu ceux qui sont capables de les réinventer. C'est ça la Torah qui va notre problème hier. Ben, tout se passe comme s'il y a une manière d'être homme Israël, le génie hébraïque, qui est capable de réinventer ce que Dieu a voulu. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu devine, ça vient, alliance. C'est avec toi que je fais alliance. Parce qu'il a deviné ce que je voulais, d'une certaine manière. Vous comprenez l'image. Et puis, effectivement, l'alliance est de plus en plus précisée, confirmée, et en fin de compte, irréversible. Comment est le verset ? C'est un verset que nous lisons tous les matins d'ailleurs. Vayah Amidéa, Yaakov, les Hormes, Israël, comment ça commence ? Asher Karat et Verito le Avraham, ou Shvuato le Yitzhak, Vayah Amidéa, Yaakov, les Hormes, ou l'Israël, Verit Olam. Et au stade d'Israël, c'est Verit Olam. Et c'est-à-dire, je pense que c'est clair, pour que l'histoire du monde soit juste, alors il faut que Dieu s'interdise de donner des conditions. Il ne s'agit pas d'échec, c'est les conditions du pari de l'histoire du monde. Ça veut dire va. Enfin, c'est mamash l'echlecha depuis l'origine. Et de temps en temps, Dieu demande Ayeka, où es-tu ? Où te trouves-tu ? Mais il faut qu'il y ait cette clause. Par conséquent, il y a eu une takala, il y a eu un incident de parcours, dès le début, dans cette faute du premier homme, mais il n'y a pas fatalité, c'est ça que je voudrais faire comprendre.
Excusez-moi, ma question est un peu différente, c'est-à-dire je veux savoir pourquoi on insiste que ça se produit avant le Shabbat, ça aurait pu se produire à la fin du Shabbat. Alors ça jette une ombre sur le Shabbat, c'est ça que je veux
dire. Alors je sais que je n'avais pas bien compris votre question. Ça s'est produit avant le deuxième Shabbat.
Ah bon, pas le premier ?
Non, pas le premier. Ça s'est produit avant le deuxième. C'est-à-dire, dans le premier, vous savez, il y a deux sortes de Shabbat, ça je n'ai pas encore parlé, peut-être on en parlera demain. Vous connaissez ce texte qui dit, si Israël pratique deux Shabbats, il est sauvé. C'est deux Shabbats différents. C'est Shabbat Bina et Shabbat Malchut, pour donner le premier homme a été mis dans le Shabbat de Dieu, donc son temps a commencé avec un premier Shabbat, et ensuite, il a eu sa première semaine, et c'est avant le deuxième Shabbat qu'il a fait. Mais je voudrais simplement vous rappeler une forme de midrash. Ce processus-là. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire de l'humanité, un programme à accomplir, et l'homme est libre de l'accomplir ou pas, mais jusqu'à certaines limites. Parce que dans tous les cas, ça se fait. Alors, si l'homme le fait, c'est un peu le problème hétéronomie, autonomie. Si l'homme le fait de par sa volonté, alors il y a bonheur, Ashrei, Aish, Ashrei, Lo Halach, c'est comme ça commence les psaumes. Mais dans tous les cas, c'est ça qui se fait. Et il y a un certain rendez-vous de la loi du temps, où dans tous les cas, c'est imposé, même si ce n'est pas fait. C'est-à-dire que ces midrashim que je vous ai cités sont optimistes. Dans tous les cas, ce monde réussira. Ou, si on le veut bien, alors, dans l'aisance, ou si on ne le veut pas, couper quelque part. Mais ça arrive. Voilà grosso modo. Et c'est comme ça pour tout dans les problèmes de la destination de l'homme. Mais simplement, vous rappelez à Midrash avant de vous donner la parole, c'est que lorsque Dieu a créé le premier homme, c'était donc l'enfant de l'humanité. Vous savez que c'est les plus anciens qui sont les plus jeunes. Je sais que nous prenons pour les jeunes, mais c'est eux qui étaient jeunes. Nous sommes très vieux. Donc c'est évident. Et alors, lorsque Dieu a créé le premier homme, il lui a dit, si tu es sage, tu auras une image. C'est ce que le traducteur appelle à l'image de Dieu. Quand Israël est arrivé au Sinaï, alors il a dit, tu seras sage et tu n'auras pas d'image.
Y a-t-il une, quelque part, une analogie entre les neuf Tishaya Releda et les six jours de la création? Ou est-ce qu'il y a quelque part une allusion à ça? Attends, de les comparer.
Je vais d'abord, si vous permettez, corriger un petit peu. Je crois que nous avons déjà appris le premier soir. On ne peut pas dire, dans la tradition juive, les six jours de la création. On dit les six jours du commencement. Parce que la création, c'est l'instant du commencement. La création n'a pas pris six jours. Ça, c'est une mauvaise utilisation du terme en français. La création, c'est « il n'y avait rien, il y a ». Ça, c'est l'instant du commencement. Et ce « il n'y avait rien, il y a », ce « il y a » d'un partout où il n'y avait rien, a été agencé pendant six jours.
Alors, c'est le BR de Bereshit. C'est le BR qui est dans Bereshit.
Oui. Vous voyez que dans Bereshit, les trois premières lettres, c'est Bara. Bara Shin.
Dans un autre sens, c'est BR.
Non, mais vous devriez plutôt dire Bara. C'est-à-dire, la création ne tient que l'instant du commencement. C'est ça, l'apparition. L'apparition à l'existence. Oui, il y a évidemment une analogie. Donc, le problème à expliquer, c'est pourquoi d'un côté c'est 6, de l'autre côté c'est 9. Mais à part cette difficulté-là, il n'y a pas de plus. C'est un problème de Kabbalah que
je voudrais vous poser une question, parce que je suis obsédé par le concret. La dernière fois que vous avez terminé votre exposé dans la grande salle sur la nécessité pour Israël d'apprendre la Kabbalah pour pouvoir se réaliser.
Attendez voir, au dernier séminaire.
Oui.
C'était sur le Rabbi Shlak.
Oui, destin, destiné.
Bon, alors si on se penche sur l'histoire d'Israël à travers les mouvements kabbalistes, on s'aperçoit que dès qu'il y a propagation des idées de la Kabbale, c'est tout de suite un échec, soit par des hérésies, soit même lorsque ils essayent de, les propagateurs de la Kabbale se réunissent dans des centres comme Safed, bon, Safed a une existence mais qui périclite, tandis que le centre intellectuel d'Israël reste à la même époque en Houtz, ça fait. Il y a une incapacité de passer de la théorie à la pratique. De plus, si on voit l'histoire d'Israël actuellement, tout s'est fait de façon presque étrangère à l'action même d'Israël. On a bâti Israël presque malgré nous, sans être véritablement concerné. On a repris Jérusalem malgré nous parce qu'on nous a fait la guerre en 67 et ainsi de suite. Mais quand on essaye de faire passer de la théorie à la pratique, on se heurte à une difficulté.
J'avais absolument raison. D'ailleurs, l'histoire montre qu'il en a été ainsi dans le dernier millénaire de l'histoire, en particulier avec l'énorme échec de la Kabbalah de Safed dans l'histoire de Shabbat HaTzvi.
Oui.
C'est évident qu'il n'y aurait jamais eu le Shabbatéisme si la Kabbalah de l'Ouria n'avait pas été du Hari, n'avait pas été répandue. Et il n'y a pas de doute que les disciples du Hari, bon, je n'ai pas le temps de parler de ça en détail, mais je ne voudrais pas quand même être trop bref, il n'y a pas de doute que les disciples du Hari, eh bien, ont voulu vraiment provoquer un temps messianique. Et que par conséquent, ils ont facilité, au début, à Shabbat HaTzvi, mais ensuite, une fois que Shabbat HaTzvi a échoué, mais ils ont décroché. Bon. C'est-à-dire, Shabbat HaTzvi est un vrai faux messie. C'est-à-dire, fais bien attention à ça. C'est-à-dire, il est faux messie en tant qu'il a échoué. Mais c'est un vrai faux messie. Il y a des faux messies, mais celui-là, c'est un vrai. D'ailleurs, il faut bien savoir une chose, c'est que cet échec de Shabbat HaTzvi a eu des conséquences catastrophiques dans l'histoire juive. En particulier, l'occultation de l'enseignement de la Kabbalah. Et pourquoi Shabbat HaTzvi a échoué? Enfin, je m'excuse d'aborder un vocabulaire politique maintenant, mais la question me demande. Parce que qu'est-ce que les kabbalistes contemporains de Shabbatai Tzvi qui ont été pour lui, voulaient. C'était le retour des Juifs aussi. La personnalité du Messie en question était pour eux éminemment secondaire. Je vais vous citer une... Et comme les Juifs ne sont pas revenus, alors il a échoué. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque où tout nous est imposé. Pourquoi nous sommes tranquilles? Mais, par exemple, je vous citerai une phrase que nous disons dans le Yotzer du Shabbat matin. Ephes bittecha malkenu limot amashiach. Entendez bien cette phrase. Ephes bittecha malkenu limot amashiach. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous adressons à Dieu et nous disons la personne d'autre que toi à Dieu au temps du Messie. Et le Messie. Tout à fait. L'écart, c'est malkenu. Je pense que c'est que. Le Messie, eh bien, c'est celui qui fait le retour à Sion. Est-ce qu'on va l'adorer pour ça? Sûrement. Et je crois que la grandeur du peuple juif contemporain, c'est qu'on n'a pas adoré ceux qui nous ont permis de retourner à Sion. On ne les a pas messianisés. On disait à Jérusalem, au lendemain de la guerre des six jours, les rabbins ont dit sérieusement, on l'a échappé belle, parce que c'était la première fois depuis 1900 ans, mais depuis la destruction du temple, on pouvait s'asseoir, les Juifs pouvaient s'asseoir devant le mur devant le Kotel, après la prise de la libération de Jérusalem. Et puis, si jamais un Juif, habillé en blanc, montait sur un âne, il est arrivé et avait dit c'est moi, j'aurais eu une émeute. Vraiment, je crois que d'abord on l'a échappé belle, mais c'est un signe que c'est le temps. Puisque personne n'a dit c'est moi, c'est que c'est le temps. Je ne veux pas être paradoxal, c'est pas ça moi. Je vais vous dire des choses comme nous les vivons. Et retenez bien là. La phrase de la tefila, Ephes bittecha malkenu, Ephes. Et qu'est-ce que c'est le Mashiach à côté de Dieu? Ephes. Je pense que c'est clair. Bon, nous parlons évidemment du Mashiach béni Yosef. Et attendez, j'ai pas fini, je vous ai terminé avant de.
Ou alors on peut dire aussi que c'est l'opinion de Rabbi Hillel.
Non, c'est pas l'opinion de Rabbi Hillel. Rabbi Hillel a dit En laem Mashiach d'Israël. Rabbi Hillel a dit il n'y en a plus. C'est-à-dire le scout à vote, le scout, il en est dans un autre chapitre, pas dans sa dédrive. Non, c'est pas exactement là. Mais, c'est-à-dire, on a tellement mythifié la personne du Mashiach que vraiment, on l'a échappé belle que plus personne ne croit au mythe aujourd'hui. Heureusement. Parce que sinon, ça aurait été très grave. Ça aurait été très grave que quelqu'un vienne dire des morts.